Voici une question dont la réponse surprendra plusieurs de nos auditeurs. Est-il possible d'avoir une position neutre au sujet de Jésus? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. En préparant les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures aujourd'hui, je me suis particulièrement réjouie de voir à quel point Dieu nous aime. J'ai bien hâte d'entendre les réponses avec vous. Mes amis, il ne faut pas manquer ça. Voici donc les questions. Est-ce qu'un croyant peut perdre son salut lorsqu'il pêche? Est-ce qu'un croyant zélé peut être un obstacle en présentant l'Évangile? Est-ce qu'il y a des croyants qui s'opposent à l'Évangile? Est-ce possible qu'une personne ait une position neutre au sujet de Jésus? Est-ce qu'on peut mettre Jésus sur le même pied d'égalité que Mohammed, Gandhi et Bouddha? De quoi un croyant a-t-il besoin pour être un bon témoin de Jésus-Christ? Qu'est-ce que l'incarnation du Fils de Dieu nous démontre? De quelle manière est-ce que Jésus nous manifeste son amour? Restez là, nos réponses s'en viennent. Notre Dieu merveilleux va nous répondre par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, tu nous parles par la bouche de ton serviteur. Tu es tellement bon de nous avoir laissé ta parole, de nous donner ton Esprit Saint pour comprendre tes Écritures, de nous donner des hommes qui prêchent ton Évangile. Merci pour ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. On écoute déjà, on sait que tu vas faire du bien à nos âmes par ta parole aujourd'hui. Merci, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu qu'il y avait deux positions extrêmes au sujet du mariage. Une consiste à mettre trop d'accent sur les relations sexuelles et l'autre à considérer le mariage si noble qu'on néglige la composante sexuelle de celui-ci. Nous vous avons encouragé à dire à Jésus tout ce que vous avez sur votre cœur. Il entend nos prières et il nous libère du péché. Cependant, Dieu ne fonctionne pas selon les règles et les astuces des humains. Il agit en son temps et selon ses méthodes. Au pied de la croix, nous trouvons le salut, la consolation et l'espoir. C'est la croix que représente la montagne de la Myre dans le Cantique des Cantiques. La solution à nos problèmes, c'est de connaître Jésus. Seul l'Esprit de Dieu peut nous révéler l'ampleur de l'amour de Jésus pour nous. Tout comme le vent froid du nord donne de la saveur aux pommes, de même, l'adversité fait du bien aux croyants. Si la vie était trop facile, elle serait insipide et fade. Peu de choses de notre vie plairaient à Dieu. Finalement, dans la dernière partie de l'émission, nous avons dit qu'il fallait un équilibre entre les temps d'intimité avec le Seigneur Jésus et l'action. Oui, il faut prier et passer du temps dans la parole. Cependant, il faut aussi sortir du lit et évangéliser. La désobéissance attriste l'esprit, mais Dieu nous fait sentir sa présence lorsque nous évangélisons. Aujourd'hui, nous étudions le cinquième cantique que forme le Cantique des Cantiques. Dans ce cantique, Salomon a conduit la jeune Sulamite des collines d'Éphraïm à son palais de Jérusalem. Dans ce cantique, l'épouse révèle combien elle est impressionnée par tout ce qu'elle y voit. Le palais, le trône, la table de banquet de son roi. Son cantique comprend de l'adoration et de la vénération du roi. Cependant, lorsqu'il vient la réveiller afin qu'elle l'accompagne dans son travail de berger, qui consiste à chercher les brebis perdues, elle n'a pas voulu sortir du lit. Lorsqu'elle a finalement ouvert la porte, son bien-aimé était parti. Il n'a pas répondu à ses appels, et elle est partie à sa recherche. Verset 6. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. La relation a été interrompue. Avez-vous attristé ou étouffé l'esprit dans votre vie? Je crains que de nombreux chrétiens ont fait une des deux choses. Premièrement, ils ont attristé l'esprit par du péché dans leur vie. Deuxièmement, ils ont étouffé l'esprit en ne lui obéissant pas. Ceci interrompt la communion ou la relation avec l'esprit et le chrétien perd sa joie. Il ne perd pas son salut, mais il n'a plus la joie qui découlait de sa relation avec Dieu. Le chrétien n'a pas perdu le Saint-Esprit qui l'habite toujours. Nous pouvons l'attrister, mais pas au point de le faire partir. Nous pouvons cependant interrompre notre relation avec lui, et c'est le cas de nombreux chrétiens. Votre joie démontre votre relation personnelle avec Jésus. Un jour, un homme m'a dit, « Tu parles comme si Jésus-Christ est réellement présent dans ta vie. » Ce n'est pas mon cas. Ceci m'a indiqué clairement qu'il attristait l'Esprit de Dieu. Il ne marchait pas selon la volonté de Dieu. Je connaissais l'homme et je percevais qu'il faisait ce qu'il désirait faire et non ce qu'il savait que Dieu voulait qu'il fasse. Une personne peut chercher à cacher la vérité en affirmant qu'elle accomplit la volonté de Dieu. S'il ne reflète pas la joie qui découle d'une relation avec Dieu, alors il ne fait sûrement pas la volonté de Dieu. La relation entre l'épouse et son bien-aimé est interrompue. Je vous l'assure. Si vous n'accomplissez pas quelque chose pour le Seigneur, vous n'avez pas perdu votre salut, mais votre relation intime avec lui n'est pas ce qu'elle devrait être. Verset 7. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Témoignons avec diplomatie. Vous rendez-vous compte comment impuissants nous sommes lorsque nous suivons nos propres voies? Nous pouvons passer à l'action avec beaucoup d'enthousiasme, mais l'enthousiasme ne remplace jamais une relation intime et personnelle avec le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enthousiasme pour frapper aux portes et annoncer l'Évangile. Certaines personnes devraient faire cela, alors que d'autres devraient s'en abstenir. J'ai un ami qui m'invite parfois et nous passons du temps ensemble. Il témoigne avec zèle. Cependant, j'ai vu qu'il manquait de diplomatie lorsqu'il témoigne. Il a mis des serveuses de restaurant en colère. Il en a fait autant avec des étrangers que nous avons rencontrés. Il m'a dit, « Les gens s'opposent beaucoup à l'Évangile de nos jours, n'est-ce pas ?» Je n'ai pu m'empêcher de lui dire, « Il n'y a pas autant d'opposition que tu le penses. Le problème est peut-être ta façon de présenter l'Évangile. » Ensuite, je lui ai fait remarquer comment le Seigneur a abordé la Samaritaine au puits. Cette femme était la personne la plus hostile que Jésus pouvait approcher. Elle était provocatrice dans ses réponses. Avez-vous déjà remarqué comment il a approché cette femme? Il ne l'a pas approchée en l'assommant avec l'Évangile ou avec sa Bible. Il lui a demandé de l'eau à boire. Il l'a abordée avec une attitude humble en lui demandant quelque chose. Puis, il lui a dit poliment, « J'aurais pu te donner de l'eau vivifiante si tu l'avais demandé. » Finalement, elle a demandé de cette eau, mais il ne lui a pas offert tant qu'elle ne l'a pas fait. Avant d'imposer l'Évangile à quelqu'un, nous devons éveiller en lui le désir de l'entendre. Les gens devraient voir quelque chose en nous qui les attire au Seigneur Jésus, afin qu'ils veuillent le connaître. Comptez-vous parmi ceux qui s'opposent à l'Évangile? Cependant, c'est vrai qu'il y a de l'opposition à la parole de Dieu. Parfois, elle vient d'une direction inattendue. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. La Sulamite a des ennuis. Elle est blessée par ceux qui devraient la protéger. La même chose se produit dans les milieux chrétiens. Dans notre société contemporaine, des pasteurs sont virés par des conseils d'église parce que leur enseignement trouble la conscience des membres du conseil. Souvent, l'opposition vient de personnes qui devraient protéger et encourager la proclamation de l'Évangile. la fille, c'est-à-dire l'épouse, rencontre les filles de Jérusalem. C'est un chant répondre. L'épouse chante quelques lignes et les filles de Jérusalem lui répondent. Cela ressemble aussi à un opéra. L'épouse dit au verset 8 « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Que je suis malade d'amour. Si vous le trouvez, dites-lui que je m'ennuie de lui. Dites-lui que combien je l'aime. Dites-lui que je le cherche. » Son cœur est attristé, et elle désire ardemment être avec son bien-aimé. Le jardin ne l'attire plus. Il semble avoir perdu son odeur. La myrrhe et l'encens ne l'intéressent plus. Les fleurs semblent avoir commencé à faner. Les filles de Jérusalem répondent, verset 9. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre ? Ô la plus belle des femmes, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi ? Leur réponse démontre qu'elles sont sceptiques. En fait, leur réponse signifie « Celui que tu affirmes aimer, pourquoi l'aimerais-tu plus que nous pourrions en aimer un autre ?» Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre homme ? Qui est ce fameux Jésus ? Qu'est-ce qui te fait croire que Jésus est différent des autres ? Il y a eu de nombreux prophètes et chefs religieux. Qu'est-ce qui fait que Jésus est différent d'eux ? Pourquoi penses-tu qu'il est qui il affirme être ? Jésus était simplement un homme comme les autres. C'est ce genre de choses que disent les sceptiques. Nous sommes pour ou contre Jésus, mais pas neutres. Il y en a beaucoup de discussions au sujet de Jésus, et il a fait couler beaucoup d'encre. Il y en a beaucoup de controverses à son sujet que toute autre personne. Il est le personnage le plus controversé de l'histoire. Permettez-moi de vous poser une question. Si quelqu'un essayait de dire que Jules César était une fripouille, vous mettriez-vous en colère et monteriez-vous barricade pour le défendre? Si quelqu'un essayait de démontrer que Jules César était un saint, cela vous exciterait-il et essayeriez-vous d'en discuter? Tout cela me laisserait indifférent. Selon moi, les gens peuvent croire ce qu'ils veulent au sujet de Jules César. Je ne me disputerai pas avec eux à ce sujet. Cependant, aussitôt que vous parlez de Jésus-Christ, toute la race humaine se range d'un côté ou de l'autre. Il est intéressant que Dieu nous oblige à prendre une décision au sujet de son Fils. Il n'a pas laissé Pilate s'en tirer sans prendre une décision. Pilate a voulu éviter de prononcer un jugement. Il a fait venir un bassin d'eau et il s'en est lavé les mains. Il a dit « Je suis innocent du sang de ce juste ». Parole rapportée par l'évangéliste Matthieu, chapitre 27, verset 24. Il se trompait énormément. Le plus ancien credo de la foi chrétienne, qui est récité depuis 2000 ans, dit « Crucifié sous Ponce Pilate ». Pilate ne s'est pas lavé les mains, il a pris une décision. Dieu l'a forcé à prendre une décision. Le gouverneur a cru être le juge alors que Jésus était le prisonnier. Il n'a pas vu que c'est le contraire qui était vrai. Jésus était le juge, et il était le prisonnier. Encore aujourd'hui, dans notre société contemporaine, tous doivent prendre une décision au sujet de Jésus. Voyez-vous en Jésus un simple homme comme les autres ou le Fils de Dieu? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Les anthologies religieuses donnent des listes des grands chefs religieux qui ont fondé une religion. Moïse, Jésus, Mohamed, Gandhi, Bouddha. Et, selon Tertullien, un père de l'Église, les premiers chrétiens auraient préféré mourir plutôt que de voir Jésus-Christ mis sur un pied d'égalité avec ces dieux païens de l'Empire romain. Ils refusaient de mettre une pincée d'encens devant une statue de César. Ils refusaient de le faire car leur bien-aimé était différent. Il était Dieu. Maintenant, l'épouse va répondre au scepticisme des filles de Jérusalem. Nous penserions qu'elle se serait calmée et qu'elle parlerait de son bien-aimé avec moins de zèle et d'enthousiasme. Mais ça n'a pas été le cas. Elle est toujours aussi éloquente et enthousiaste lorsqu'elle vante son bien-aimé. Poursuivons notre lecture du livre des Cantiques des Cantiques, chapitre 5, versets 10 à 16. « Mon bien-aimé blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. » La Sulamite peut décrire Salomon dans ses moindres détails. Qu'est-ce que cela nous révèle? Cela nous indique qu'elle le connaissait intimement. Pour bien témoigner, il faut connaître Jésus intimement. Mes amis, si vous voulez défendre la personne de Jésus-Christ et être son témoin, vous devez le connaître personnellement. Vous ne devez pas avoir simplement entendu parler de lui. Vous devez l'avoir vu et rencontré. Vous devez le connaître intimement. C'est alors que vous pourrez parler de lui avec enthousiasme et éloquence. Lorsque vous parlerez de lui, on percevra votre amour, votre zèle et votre enthousiasme pour lui. En effet, il faut non seulement le connaître, mais il faut aussi l'aimer. C'est ce qui est le plus important. L'épouse connaissait son bien-aimé. Elle le connaissait et elle l'aimait. Elle a dit que l'on pouvait reconnaître son bien-aimé entre 10 000. Jésus-Christ était pleinement humain et il a été un être très aimable. Lors du dernier repas, l'apôtre Jean put appuyer sa tête sur la poitrine de Jésus. Ce même Jean avait vu Jésus ressusciter des morts, calmer des tempêtes et rencontrer Moïse et Élie sur le mont de la Transfiguration. Jésus permettait à Jean d'appuyer sa tête sur sa poitrine. Jésus était doux et humble de cœur. Il avait une relation intime avec ses disciples, et c'est toujours ce qu'il veut aujourd'hui. Il veut une relation intime avec nous. Jésus était un être humain parfait, c'est-à-dire qu'il était parfaitement homme. Il avait quitté sa gloire céleste pour venir sur terre avec une nature humaine. Cependant, il n'a jamais commis de péché, quoiqu'il ait été tenté en toutes choses, comme nous le sommes. Il a été très patient avec les êtres humains, surtout avec ses propres disciples. Ceux-ci ne l'ont pas toujours compris. Ils lui ont adressé des reproches tout en l'aimant et en le suivant. Chers amis, nous devons aimer Jésus. Nous ne pouvons pas trouver un être humain qui est ou qui a été plus aimable que Jésus-Christ. Êtes-vous capable de parler de Jésus avec enthousiasme comme l'a fait l'épouse de son bien-aimé? Pour faire cela, il nous faut une relation personnelle et intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons l'aimer. Venir à Jésus-Christ n'est pas une simple transaction commerciale. Nous ne pourrons jamais le glorifier, l'adorer et le louer comme il le mérite. La sainteté de Dieu est un attribut qui l'élève au-dessus de tout. Nul n'est saint comme Dieu. 1 Samuel, chapitre 2, verset 2. Jésus, étant pleinement Dieu, possède aussi la sainteté divine. Cependant, cette sainteté ne le rend pas austère et inaccessible. L'incarnation du Fils de Dieu démontre sa compassion. Oui, chers amis, je répète, l'incarnation du Fils de Dieu démontre sa compassion. Écoutez ces textes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens, chapitre 2, les versets 4 à 8. Jésus était touché par l'état des foules qui venaient à lui. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu chapitre 9, verset 36. Jésus accueillit tous les types de pécheurs. Les pécheurs religieux, comme Nicodème qui se croyait juste, les pécheurs possédés du démon, comme Marie de Magdala. De plus, il est venu comme un courant rafraîchissant qui a transformé la vie de ces pécheurs. Jésus a été accessible. Il a accueilli et mangé chez des gens que les Juifs et les pharisiens dédaignaient. Il s'est invité à prendre un repas chez Zachée, un publicain, ce qui a scandalisé les bien-pensants de la société. Il a refusé de condamner une femme prise en flagrant délit d'adultère, et il lui a exercé sa miséricorde envers elle. Jésus veut nous manifester son amour, son affection, sa grâce et sa miséricorde. Au début du Cantique des Cantiques, nous avons vu ce verset. « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. » Cantique chapitre 1, verset 2. Rien ne vaut l'amour du Seigneur Jésus pour nous. Jésus est allé vers la Samaritaine, près du puits, afin de toucher son cœur avec la grâce de Dieu. Pendant qu'il était là, à l'agonie sur la croix, il a pris le temps d'assurer à un malfaiteur qu'il serait avec lui au paradis le jour même. Il a laissé Marie, une femme pécheresse, loindre de parfum sous l'œil scandalisé de pharisiens. Il a pardonné tous les péchés d'un paralytique que l'on a descendu devant lui d'une ouverture dans le toit. Il s'est laissé approcher par les aveugles, les boiteux et les lépreux, les personnes que les bien-pensants de l'époque considéraient punies par Dieu. Après sa résurrection, il a même rencontré Saul de Tarse, qui était en route pour persécuter les chrétiens de Damas. À tous, il a fait cette invitation qu'il nous fait encore aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. N'oublions jamais que Jésus veut une relation personnelle et intime avec nous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Mes amis, le bien-aimé de la Sulamite était le plus aimable des hommes. Il est une image de Jésus-Christ. Aucun être humain n'est plus aimable que Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ était le bien-aimé de J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes. Jésus-Christ est mon bien-aimé. Jésus-Christ est le bien-aimé de Caro et de tous les membres de l'équipe de production. Des milliers de personnes ont découvert combien aimable est le Seigneur Jésus. Nous vous invitons de faire de notre bien-aimé votre bien-aimé. Venez à lui et goûtez sa sagesse, sa sainteté, sa bonté, sa patience, sa fidélité, sa justice, sa compassion, son amour. Permettez-lui de devenir votre roi. Non seulement pardonnera-t-il tous nos péchés et efface-t-il toute notre dette envers Dieu, mais il transforme nos vies à son image. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Citation de Romains chapitre 8, verset 29. Le Seigneur Jésus ne demande qu'à reproduire en nous les qualités que je viens de citer. Préparons-nous pour la prochaine émission, chers amis, en lisant Cantique des Cantiques, chapitre 6 jusqu'au chapitre 8.
Oh, merci beaucoup, Régent. Quel amour on a pu découvrir pendant ce bon enseignement. Comment douter que Dieu nous aime quand les Saintes Écritures nous le révèlent avec autant d'exactitude? Mes amis, avez-vous goûté à l'amour de Dieu au cours de l'émission aujourd'hui? Le Cantique des Cantiques nous le révèle tellement bien. Je pourrais dire que je jubile présentement quand je pense que cet amour est pour moi personnellement. Et ce qui est encore plus fantastique, c'est que je peux partager cet amour avec tous ceux qui l'ont déjà reçu et avec tous ceux qui voudront bien le recevoir, et ce, sans que ça ne m'en enlève la moindre parcelle. C'est ça l'amour de Dieu. Il aime toutes ses créatures. Comme Réjean nous l'a mentionné, Jésus a accueilli tous les types de pécheurs. Les pécheurs religieux comme Nicodème qui se croyait juste, et même les pécheurs possédés du démon comme Marie de Magdala. Et il a transformé leur vie. Il a aussi transformé la vie d'une très grande pécheresse qui vivait dans l'adultère, dans l'ivrognerie et dans le mensonge. Et cette pécheresse se nomme Caro. Oui, mes amis, j'étais complètement indigne de lui. Mais Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus, qui est venu mourir sur une croix pour payer la dette de mes péchés et me donner la vie éternelle. Et je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit pour mériter ce cadeau. J'ai tout simplement cru au Fils de Dieu. J'ai cru en Jésus qui s'est fait homme pour venir souffrir entre les mains des pécheurs comme moi et qui s'est laissé crucifier sur une croix afin de recevoir la condamnation que je méritais pour mes péchés. Mon ami, Jésus a reçu ce châtiment pour toi aussi. Toi aussi, tu es sa créature, mais tu es peut-être encore perdu dans ta vie de péché, tout comme je l'ai été pendant 30 ans de ma vie. Mais Jésus, qui est non seulement mort pour nos péchés, est ressuscité le troisième jour, et maintenant il est vivant. Il veut te sauver parfaitement. Peut-être que tu penses que tu as trop péché et que Dieu ne pourrait jamais te pardonner tout ça. Ou peut-être que tu mènes une bonne vie et que tu crois que tu es assez bon, assez bonne pour mériter ton ciel par tes bonnes œuvres. Mais la Bible, la parole de Dieu, nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais elle dit aussi qu'on est gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tu peux voir ça dans le troisième chapitre de l'Épître de Paul aux Romains, aux versets 23 et 24. Mon ami, viens à Jésus. Il frappe à ta porte présentement. Dans le troisième chapitre de l'Apocalypse, au verset 20, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mon ami, cette porte, c'est la porte de ton cœur, et elle n'a qu'une poignée, et cette poignée est en dedans. Il y a juste toi qui peux l'ouvrir. Dans son amour, le Seigneur t'a créé libre. Alors ouvre la porte et laisse Jésus entrer et devenir ton Seigneur.
Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.